VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Un tribunal de Kigali a ordonné lundi la mise en liberté provisoire de l'épouse d'un opposant rwandais en exil, accusé notamment de formation d'un groupe armé illégal. Violette Uwamahoro, qui a la double nationalité rwandaise et britannique, a été libérée provisoirement par la juge du tribunal de Gasabo à Kigali. Madame Uwamahoro est l'épouse de Faustin Rukundo, un cadre du Congrès national du Rwanda, RNC, parti d'opposition en exil, formé par d'anciens proches du président Paul Kagame et que Kigali qualifie de terroriste. L'Union européenne, l'Union africaine, les Nations unies et l'Organisation internationale de la francophonie ont dit mardi leur profonde préoccupation sur la grave situation au Kasaï, région du centre de la République démocratique du Congo. La police accuse des rebelles dans cette province d'avoir massacré 39 agents et ces quatre organisations condamnent cet acte ignoble dans un communiqué commun. Le dialogue politique en RDC est dans l'impasse. Le pouvoir, l'opposition et la société civile se sont quittés lundi en queue de poisson. La paume de discorde, la désignation du Premier ministre et du président du Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre, les évêques catholiques ont été contraints d'annoncer lundi soir l'échec des pourparlers et la fin de leurs bons offices. Étienne Tshisekedi de la plateforme du Rassemblement pointe un doigt accusateur sur le pouvoir de Joseph Kabila.
C'est du gâchis, c'est dommage pour le peuple, oui, qui attendait sûrement beaucoup plus de la part de la majorité présidentielle, parce que c'est elle qui est responsable de l'échec. Il y a un accord qui a été signé le 31 décembre, et si vous regardez cet accord, il n'y a aucun endroit où il parle de trois noms et tout le reste. Donc vous comprenez bien que tout était fait pour tuer l'accord à travers les arrangements particuliers que nous avons faits. Donc il n'y a pas de tort partagé, il y a un coupable, c'est le camp du président Kabila, voilà.
Étienne Tshisekedi de la plateforme du Rassemblement. Réaction du côté du pouvoir à Kinshasa. Les institutions congolaises en place doivent s'assumer afin d'aller aux élections. C'est en tout cas l'avis d'Aubin Minankou. Il est le président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la majorité.
Il faut toujours espérer. On n'a pas atteint l'objectif. L'essentiel, c'est qu'il y a eu quelques points importants qui ont été adoptés. Les institutions de la République doivent s'assumer avec toute la population afin que nous atteignions notre objectif à tous. Et par rapport à cet objectif, il y a eu consensus, à savoir organiser les élections. L'accord a été signé le 31 décembre, mais l'arrangement particulier, nous ne l'avons pas signé, hélas.
Voilà, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minankou. Les réactions des politiques congolais ont été recueillies par nos confrères de Top Congo FM, nos stations partenaires à Kinshasa. Et puis, ouverture du dialogue politique inclusif et sans tabou, associant partis politiques et mouvements de la société civile, voulu par le président Ali Bongo Ondimba pour tenter de clore la crise politique née de la contestation de sa réélection en août au Gabon. Le camp de son rival Jean-Ping, qui se dit toujours président élu, boycotte les débats. Le professeur Flavien Enokoué, conseiller du président Ali Bongo, situe les enjeux de ce conclave.
Il y a deux principaux objectifs. Il y a un objectif immédiat qui est de consolider l'apaisement et la décrispation donc, du climat politique. Et il y a un objectif plus structurel qui est celui à moyen et à long terme de parvenir à une révision fondamentale, à une réforme des institutions.
L'absence de l'opposition va-t-elle avoir un impact sur le dialogue?
Je ne pense pas. On eût aimé que tout le monde fût là, mais comme vous savez, les agendas politiques des uns et des autres ne sont pas forcément de nature à permettre cela. Mais le caractère inclusif du dialogue, il est assuré dès lors qu'il y a une participation massive de la société civile à la phase citoyenne. Aujourd'hui, on annonce 1200 organisations de la société civile et à la phase politique, il y a la majorité des partis politiques qui constituent le paysage politique gabonais. Aujourd'hui, il n'y a plus que quelques personnalités qui sont restées à marge de cela.
Professeur Flavien Enokoué, conseiller du président Ali Bongo Ondimba.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
La nation malienne est en conclave dans le cadre de la conférence d'entente nationale qui a ouvert ses portes lundi à Bamako. Les Maliens se donnent 7 jours pour parler de paix, réconciliation et d'unité nationale. Un bémol toutefois, la CEMA et l'opposition malienne ne participent pas aux travaux. Pour le président malien, ils prendront le train en marche. Ibrahim Boubacar Keïta.
Je rappelle que cette conférence d'entente nationale est un train qui démarre. Et ceux qui ne l'auront pas pris dans cette gare-ci peuvent toujours le rattraper à une autre gare. L'essentiel est qu'à l'arrivée, toute la famille soit réunie. Et la dernière gare, le terminus de ce voyage, porte le nom Entente nationale. Une fois que j'aurai reçu les recommandations de la conférence, ainsi qu'il m'a été demandé par le président de la conférence d'entente nationale, je déciderai du cadre, des modalités et de l'agenda de son élaboration définitive ainsi que de son appropriation par l'ensemble des composants de la nation. Nous ne sommes dans aucune malice. Nous voulons un Mali uni. Nous voulons un Mali sur des bases solides. Rien ne nous effraie. Aucun débat ne nous effraie.
Le chef de l'État malien. La malnutrition s'aggrave au Moyen-Orient et en Afrique du Nord avec plus de 30 millions de personnes touchées, selon un rapport de l'Organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. Selon ce rapport, publié lundi, la sécurité alimentaire et nutritionnelle s'est considérablement aggravée au cours des 5 dernières années, sapant les progrès constants réalisés avant 2010. La principale raison de cette dégradation, selon la FAO, est la propagation et l'intensité des conflits et des crises prolongées. Le discret vétéran de la lutte anti-apartheid Ahmed Kathrada, compagnon de cellule de Nelson Mandela dans la prison de Robben Island, est décédé aujourd'hui en Afrique du Sud à l'âge de 87 ans, suscitant une avalanche d'hommages. Ancien député et conseiller du président Mandela pendant son seul mandat à la tête de l'Afrique du Sud, ce fils d'immigré indien faisait partie du premier cercle des dirigeants historiques du Congrès national africain, l'ANC. En Inde, une foule a violemment attaqué lundi soir près de la capitale indienne, New Delhi, des Africains assimilés à des vendeurs de drogue après la mort possiblement par overdose d'un adolescent. Les émeutes ont éclaté dans la soirée lorsque la police de Greater Noida, ville satellite de New Delhi, a relâché 5 étudiants africains arrêtés dans le cadre de l'enquête sur ce décès intervenu dimanche. Les autorités avaient indiqué ne pas avoir d'éléments contre eux. 10 personnes ont été blessées dans ces violences, ont indiqué les autorités, tandis que l'État indien lui-même a promis une enquête rigoureuse sur ces événements.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Europe, la sortie officielle de la Grande-Bretagne de l'Union européenne est proche. Demain, mercredi, Londres va activer l'article 50 du traité de Lisbonne qui va lancer officiellement le processus de sortie 9 mois après le référendum du 23 juin 2016 où les Britanniques ont voté à près de 52% pour quitter l'Union européenne. Claire Morin-Gibourg.
C'est mercredi que Tim Barrow, l'ambassadeur du Royaume-Uni à Bruxelles, va remettre au Conseil européen la lettre officielle qui marquera le début de 2 ans de négociations. Au même moment, Theresa May annoncera aux députés le lancement de la procédure. Le lendemain, le gouvernement britannique publiera le Great Repeal Bill, c'est-à-dire le livre blanc du projet de loi, baptisé Grande Abrogation. Il est destiné à abolir une loi de 1972 qui avait incorporé la législation européenne au droit britannique. Sur le plan économique, cela risque d'être plus compliqué. Les négociations pourraient ne pas aboutir et laisser le pays sans accord. La Grande-Bretagne sera alors exposée aux règles de base de l'Organisation mondiale du commerce, comprenant notamment des barrières douanières. La Fédération de l'industrie britannique a jugé ce scénario inacceptable alors que l'Union européenne représente la moitié des échanges britanniques. Les situations en Écosse et en Irlande du Nord sont encore plus problématiques. Le Parlement écossais devrait voter aujourd'hui une motion l'autorisant à réclamer un nouveau référendum pour l'indépendance. En Irlande du Nord, les républicains du Sinn Féin et les unionistes ont échoué à trouver un accord sur une coalition gouvernementale, ce qui pourrait aboutir à un retour au « direct rule », c'est-à-dire l'administration directe de la province par Londres.
Après l'échec cuisant de la réforme de l'assurance santé, l'administration Trump a déplacé son attention sur la refonte des impôts, s'attendant à des discussions moins âpres au sein de sa majorité que celles qui l'ont divisé sur Obamacare. L'administration Trump prévoit ainsi de faire grimper l'expansion économique à 3%, voire 3,5% l'année prochaine au lieu de la molle croissance de 2% observée depuis 2010. Eh bien, vous l'aurez constaté, le Tshisekedi qui est passé dans ce journal se nomme bien Félix Tshisekedi. Son père, Étienne, est décédé et le dialogue entamé hier a été abandonné par les prêtres. Merci de nous avoir suivis, Jean-Roger Billon. Au revoir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.